Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On n'aurait pas idée, mes bien chers frères, d'isoler, lorsqu'on tient un livre d'histoire entre les mains, un événement particulier du contexte dans lequel est né cet événement. Pas plus qu'on ne songerait à, s'il s'agissait d'une biographie, n'ouvrir qu'une page au hasard, sans tenir compte du reste de la vie de la personne dont on lit la biographie. Nous savons bien en effet que tout se tient, aussi bien dans la grande histoire, c'est-à-dire que les événements entre eux s'imbriquent, il existe une logique, aucun ne naît spontanément, pas plus que dans la vie d'une personne, un événement ne survient sans antécédent. C'est eu égard au passé de la personne, à son tempérament, que sais-je, que la personne va réagir de telle ou telle manière. Ce que l'on sait donc, et selon on est certain lorsqu'il s'agit d'un livre d'histoire ou d'une biographie, pourquoi ne l'applique-t-on pas lorsqu'il s'agit de l'écriture sacrée, lorsqu'il s'agit plus précisément de l'Évangile? Il faut bien reconnaître, mes frères, que lorsqu'à la messe le dimanche nous entendons un passage de l'Évangile qui nous est lu, très peu de fois, avant la messe ce serait mieux, mais pourquoi pas après, il n'est jamais trop tard, nous avons la curiosité d'aller chercher dans l'Évangile où se situe ce passage. Parce qu'il existe là aussi une cohérence, pourquoi ? Parce que l'Évangile est l'histoire de l'Église, du peuple de Dieu, mais également la biographie de Jésus-Christ, pas seulement, c'est vers bien au-delà, mais aussi l'histoire du peuple qu'est l'Église et de notre Seigneur. Il faut donc aller chercher le contexte dans lequel se situe la péricope. Ce qu'on appelle en langage technique la péricope, c'est le passage de l'Écriture. Parce que sinon, on ne comprend pas les tenants et aboutissants de chaque épisode qui nous est lu à la messe. Par exemple, pour ce qui concerne l'Évangile d'aujourd'hui, nous trouvons l'enseignement de saint Matthieu dans, il s'agit d'un miracle, cette guérison du paralytique par Jésus, est situé dans un contexte plus large de deux chapitres qui sont une sorte de, j'allais dire ramassis, mais le terme est un peu péjoratif, de cumul de miracles, une sorte de feu d'artifice de miracles. Et cet ensemble-là vient immédiatement à la suite de ce fameux sermon sur la montagne qui ouvre l'évangile de saint Matthieu, ou du moins qui occupe trois des premiers chapitres. Pourquoi une telle place ? Je ne cherche pas ici à faire un commentaire technique, peu m'importe. Je cherche à nous nourrir de la parole de Dieu, à en comprendre, là encore, les tenants et aboutissants. L'enseignement sur la montagne, des chapitres 5 à 7 de saint Matthieu, c'est la loi nouvelle. On vous a dit que, je vous dis que, les béatitudes, le pater, toutes sortes de normes morales pour que le chrétien sache comment il doit agir pour aller au ciel. Nous comprenons bien que si nous isolons cet enseignement du sermon sur la montagne, et certains ont tenté de le faire, alors nous ne voyons là qu'un enseignement de sagesse un peu comme les autres. Une personne édifiante, qui donne des règles de conduite tout à fait édifiantes, parfois pas très sympathiques, les béatitudes, il faut bien reconnaître que ça prend l'homme à rebousse-poil, mais édifiante. C'est pourquoi Jésus vient ensuite, comme sceller cet enseignement du sermon sur la montagne, par une série de miracles. Pour montrer qu'il ne suffit pas de considérer cet enseignement moral comme un enseignement de sagesse, humain simplement, mais qu'il s'agit de le reconnaître comme enseigné par Dieu même. Vous voyez, Jésus à la fois, par ses miracles, légitime l'amendement qu'il fait, les réformes qu'il fait de la loi ancienne, avec cette loi nouvelle dans le sermon sur la montagne, et en même temps, Jésus veut provoquer l'auditoire pour leur faire comprendre qu'il faut adhérer à cet enseignement comme à l'enseignement de Dieu même. Voilà donc ce que sont les miracles, mes frères, et voilà pourquoi Jésus utilise une somme considérable de ces miracles, en quelques lignes, parce que je devine que certains d'entre vous, très occupés le dimanche après-midi, n'auront pas le temps d'aller voir exactement de quoi il retourne dans le contexte de cette péricope d'aujourd'hui. Alors, je vous fais une liste rapide. C'est la guérison du lépreux, puis la guérison de l'enfant du centurion, puis de la belle-mère de Simon-Pierre, puis de la tempête apaisée, puis de la légion de démons qui est jetée, vous savez, dans ce troupeau de porcs, scène dantesque, et la scène de cette guérison du paralytique d'aujourd'hui. Et j'en passe, car ensuite, Jésus continue encore à faire des miracles aussi extraordinaires les uns que les autres. Je vous le dis, c'est un feu d'artifice. Pourquoi ces miracles? Encore une fois, parce que Jésus ne veut pas que nous nous contentions de lire l'Évangile comme s'il s'agissait que d'un enseignement moral, délivré par un homme, de haute volée, mais un homme seulement, mais que nous comprenions qu'il est Dieu, et que nous rencontrions réellement, sous les traits humains de Jésus, le Fils de Dieu. Le miracle, mes frères, a pour objet de nous secouer de notre torpeur. Le miracle a pour but de nous percer l'intelligence et de nous percer le cœur. Pourquoi ? Parce que c'est la condition sine qua non que notre intelligence soit avivée, que notre cœur soit percé, pour que nous ayons la foi, pour que nous rencontrions Jésus-Christ. Car Jésus-Christ seul et l'adhésion à Jésus-Christ seul est capable de nous sauver. Vous me direz, c'est donc, l'abbé, vous êtes en train de nous dire que le miracle engendre la foi et qu'alors nous pouvons adhérer à Jésus-Christ. Pas du tout. Je dis que le miracle est là pour nous secouer, pour mettre un coin dans cette espèce de bois monolithique et froid et lourd que nous sommes bien souvent, sorte de rationaliste à la Saint Thomas avant sa conversion, voyez, et nous avons besoin de ce genre d'occasion pour que vraiment notre intelligence soit en échec et que nos sens soient émoustillés. Il y a dans cette réaction face au miracle de Jésus deux catégories de personnes dans l'ensemble des miracles chez Saint Matthieu dont je viens de vous parler. Il y a deux catégories, il y a un groupe qui est contre et il y a un groupe qui est pour. Ou plutôt, il y a un groupe pour lequel ces miracles sont féconds et ces miracles permettent l'adhésion à Jésus, et il y a un groupe pour lequel ces miracles sont une occasion de scandale où ces miracles ne provoquent rien du tout. En effet, ce groupe négatif, commençons par le négatif pour terminer sur de belles choses, le groupe négatif, quel est-il? Bien, ce sont d'abord les apôtres. Sur le lac de Tibériade, où Jésus apaise la tempête, ils voient ce miracle, ils ont recours à Jésus, « Seigneur, sauve-nous, nous enfonçons ». Et Jésus calme les eaux et le vent. Quelle est la conclusion de ce petit passage, de ce miracle? Non pas « Notre Seigneur, notre Dieu, nous prosternons devant toi ». Rien du tout. Quel est cet homme pour qu'il ait ce pouvoir de maîtriser et la mer et le vent? Les apôtres n'en viennent pas du tout à une adhésion dans la foi à Jésus-Christ. Étonnant. La péricope suivante, lorsque la légion sort de cette personne possédée pour se jeter dans le troupeau de porcs qui lui-même va se jeter dans la mer, nous dit-on, quelle est la conclusion de ce miracle? Jésus se fait jeter par les habitants du village, qui sont les propriétaires du troupeau de porcs, parce qu'il vient de causer une perte considérable. Jeter un troupeau de porcs dans la mer, c'est une perte pour ce village. Alors ils demandent à Jésus, plus ou moins gentiment, de quitter les lieux pour leur laisser continuer leur business tranquillement. Il y a, alors qu'ils viennent d'assister à ce miracle, d'une légion d'esprits se jetant dans les porcs, ce qui est assez peu commun et qui aurait dû quand même les conduire à une autre réaction. Il y a également, dans l'évangile d'aujourd'hui, la réaction des scribes, qui, dans leur cœur, blasphèment. Une fois que Jésus a fait le miracle qu'il a relevé le paralytique, l'Écriture ne nous le dit pas, mais c'est sous-entendu, puisque Jésus va être crucifié quelques mois plus tard, c'est donc que ces scribes n'ont pas du tout été conduits à reconnaître dans ce miracle la griffe de Dieu, et en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, encore moins. Ça, c'est le premier groupe de personnes, donc, qui, devant le miracle, restent soit de marbre, soit les apôtres, soit ou pas suffisamment conséquents, ils ne comprennent pas que Jésus est le Fils de Dieu, soit opposés à Jésus-Christ, à sa divinité. Il y a un deuxième groupe qui est beaucoup plus sympathique, et auquel nous aimerions bien appartenir tout de même si nous étions à l'époque du Christ, qui a cette réaction positive, qui adhère à Jésus-Christ en tant qu'il est Fils de Dieu. C'est le lépreux, c'est le centurion, c'est le possédé qui est libéré de cette légion de démons, c'est le paralytique d'aujourd'hui, etc. Il est intéressant de noter que le point commun entre ceux qui sont tièdes à l'égard de Jésus et devant son miracle, ceux qui sont tièdes ou qui sont carrément hostiles, il est intéressant de noter surtout que le point commun entre ceux qui acceptent, c'est plutôt ça qui m'intéresse, j'avais fait tout un développement dont je vous fais grâce ici, le point commun entre ceux qui adhèrent à Jésus via le miracle, c'est leur souffrance. Tous, sans exception, sont dans une souffrance aiguë lorsque Jésus vient à eux, ou lorsque eux viennent à Jésus, tous sentent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Le centurion a son fils qui est mort, le lépreux est lépreux tout simplement, le possédé est écrasé par la légion, et le paralytique est incapable de se mouvoir par ses propres forces. Il y a, je crois, quelque chose de significatif dans ces passages de l'Écriture, et dans le fait que dans ce groupe, tous soient souffrants. Je crois qu'il faut, et il s'agit là d'une clé au mystère de la souffrance, il me semble qu'on ne peut réagir convenablement, positivement, à ces miracles que Jésus nous propose, et adhérer à Jésus-Christ, non pas que, encore une fois, les miracles engendrent la foi est un don directement donné par Dieu, mais et indépendant de la volonté de l'homme. Mais la part de l'homme, c'est d'adhérer au miracle, de reconnaître là une attestation de la divinité de Jésus, ce qu'on appelle un motif de crédibilité. Vous voyez, la part qui est laissée à Dieu, 99%, c'est le don de la grâce et la foi, et la part 1% qui est laissée à la personne humaine, qui doit coopérer, c'est une adhésion au motif de crédibilité. Oui, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne comprends même presque rien, mais je reconnais dans vos miracles une attestation de ce que vous dites. Vous êtes crédible, Seigneur. Alors oui, je vous fais confiance. Mais pour pouvoir adhérer ainsi au motif de crédibilité, je crois, mes frères, qu'il faut, un jour ou l'autre, passer par le creuset de la souffrance. Il faut, un jour ou l'autre, faire l'expérience, et l'expérience aiguë, parfois écrasante, de notre insuffisance. Je ne peux pas m'en tirer par mes propres forces, j'ai besoin d'un sauveur. Et je vois quelqu'un qui, devant moi, fait des miracles, et je vois quelqu'un dont l'Église qu'il a instituée existe depuis 2000 ans sans discontinuer, et je vois quelqu'un dont les témoignages qui ont été collectés dans l'Évangile sont crédibles, même au regard des sciences humaines. Alors, Seigneur, oui, je crois que vous êtes mon sauveur. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais voilà, je crois que là, ce qu'il nous faut, la démarche qu'il nous faut à l'égard de Dieu, à l'égard du Christ plutôt, dans laquelle il nous faut entrer, c'est une humilité, ne pas regimber sous le fardeau de la souffrance qui, un jour ou l'autre, frappe à notre porte, c'est inévitable. Peut-être pour certains d'entre vous, tous les jours, et plusieurs fois par jour. Il ne faut pas regimber, mais se servir et comprendre que la souffrance est pour nous un moyen de sonder notre insuffisance, notre finitude, dirait Ségolène Royal, et la nécessité que nous avons d'un sauveur. Lorsque la souffrance tombe sur vous donc, réjouissez-vous, et c'est peut-être ça le message des béatitudes, réjouissez-vous parce que votre cœur, parce que votre intelligence sont enfin souples, sont enfin aptes, pauvres qu'ils sont, à être remplis d'admiration devant les miracles de Jésus. Et alors, vous pouvez coopérer à ce don de la grâce qu'est la foi et adhérer pleinement à Jésus-Christ et ainsi accéder au salut. Si mon sermon avait eu le travers d'être trop compliqué ou de vous endormir, je demande au Saint-Esprit de vous faire saisir tout cela parce que je crois que c'est capital. Nous demandons très souvent, je reprends ma reprise, nous demandons très souvent quelle doit être notre coopération pour pouvoir accéder au salut. Encore une fois, notre coopération, elle est finalement microscopique. Il s'agit d'accepter, de reconnaître dans le comportement de Jésus, dans ce qui est accessible à notre raison, quelque chose qui n'est explicable que si Jésus est Dieu. Alors en plénitude, Jésus nous comble de ses dons, et premièrement d'une foi, et d'une foi inflexible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.